pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, en ce lundi matin, vous revenez sur les tribunes pour l'indépendance des journalistes du Monde.
460 journalistes, 500 personnalités lectrices du Monde, de Télérama, du Courrier International et de La Vie se sont engagés la semaine passée pour défendre l'indépendance de leur journal. Retour aujourd'hui sur les sources philosophiques de ce principe démocratique.
Leur capital est étroitement lié à la valeur du journal et la valeur du journal, c'est son indépendance, justement, éditoriale. Donc, il faut bien qu'ils comprennent que leur investissement, il vaut justement si le journal a du crédit. Enfin, le journal, les journaux, parce que évidemment, Le Monde est l'espèce de navire amiral, mais les journaux du groupe ont un crédit. Et c'est cela que nous voulons absolument leur faire admettre et leur faire entendre.
Comment est-on passé de la liberté de la presse à l'indépendance éditoriale? C'est la question que je me suis posée en lisant les deux tribunes du Monde et en entendant Raphaël Baquet, elle-même journaliste dans Le Quotidien, à ce même micro sur France Culture. L'accent est aujourd'hui mis sur l'indépendance, alors qu'en 1789, c'est la liberté de la presse qui avait été proclamée. Que s'est-il donc passé? En philosophie, et même s'ils sont presque synonymes dans la langue, on a tendance à distinguer la liberté de l'indépendance. La première est positive, la seconde négative. Le philosophe Isaiah Berlin, dans sa leçon inaugurale à l'université d'Oxford le 31 octobre 1958, a lui-même conceptualisé cette distinction. L'indépendance ou liberté négative est l'absence d'entrave à son exercice qui assure un espace de liberté. Quand la liberté positive est la possibilité que chacun se donne d'agir en dehors de toute contrainte extérieure. En ce qui concerne la presse, nous serions donc passés d'une liberté positive, pleine, entière, à un souci de se préserver de la contrainte économique, mais aussi politique ou sociale. Doit-on donc en déduire que la presse a perdu aujourd'hui en liberté, qu'il s'est produit une modification profonde de ses conditions d'exercice et de sa production ?
Des journalistes insultés, menacés ou frappés, comme ici à Rouen en janvier dernier, lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Dans son dernier rapport, Reporters sans frontières prévient « La haine a dégénéré en violence en France, mais aussi dans le reste de l'Europe ».
À la pression financière des actionnaires, il faudrait ajouter la défiance que la presse suscite désormais. Défiance, le mot est devenu courant depuis les Gilets jaunes, pourra caractériser le lien fragilisé entre médias et public. Est-ce une contrainte de plus avec laquelle la presse a-t-elle affaire? Est-ce encore un signe de la perte de liberté des journaux? Quand la liberté de la presse est proclamée en 1789, elle prend la forme d'un article dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'article 11 qui postule, je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». De fait, si la presse a toujours été vue comme l'un des socles de la démocratie, elle a toujours été associée à son propre abus, à sa propre limitation. Dans un texte de 1817 qu'il faut absolument relire, l'homme politique et philosophe Pierre-Paul Royer-Collard, je ne sais pas si vous le connaissez, propose ainsi une thèse originale de la liberté de la presse. Celle-ci n'est pas seulement libre parce qu'elle s'exerce, mais aussi parce qu'elle est réprimée dans ses abus. Comment peut-on comprendre cela? Comment comprendre qu'il est juste que les médias soient défiés?
Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Elle disait ce matin, regardez, un directeur de la préfecture de police a dit que c'était faux. Il dément. Quelques heures plus tard, on l'entend. On dit, regardez, les images tournent en boucle d'une scène inadmissible et que je condamne. Je ne vois jamais la scène d'avant, la scène d'après. Quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? S'agissait-il d'individu qui buvait gentiment un café en terrasse? Que s'est-il passé juste ensuite? J'ai cru comprendre qu'il y avait des images. Sont-elles montrées avec la même volonté de rechercher la vérité et d'apporter de manière équilibrée les faits? Non. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire.
Pression financière, défiance du public, il ne manquait plus que la critique du président de la République pour clore le tableau des contraintes que subissent les médias aujourd'hui. Ce qui permet de reposer la question de Royer-Collard, comment faire pour défier la presse sans pour autant la mettre en danger? Eh bien pour Royer-Collard, mais aussi pour tout un ensemble de philosophes français du 19e siècle, comme Tocqueville, la presse est ce qui permet l'émergence d'une opinion publique. Dès qu'elle fait primer des opinions particulières sur l'opinion générale, là est le danger. D'où la nécessité de la défier liberté, c'est-à-dire de la critiquer. D'où le fait aussi que la liberté de la presse est par essence une indépendance et pas une liberté pleine. Elle travaille à ne dépendre ni d'opinion privée, ni d'intérêt privé, et encore moins du pouvoir du président. La presse n'est donc pas moins libre aujourd'hui, mais apparaît dans toute sa splendeur l'indépendance dont elle doit faire preuve.
Merci beaucoup Géraldine, et vous nous conseillez de lire un ouvrage ?
Alors, on peut lire Les Libéraux, c'est une anthologie de Pierre Manant dans laquelle on trouve le texte de Royer-Collard sur la liberté de la presse. On la trouve chez Gallimard.
Bah, merci, ça donne très envie de lire ce texte. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.